Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
L'insécurité grandissante dans le pays, les affrontements entre groupes armés à Kidal et la justice populaire sont entre autres sujets abordés ce soir dans le forum La Presse. Nos invités tous journalistes, Amadou Ombotimbe, journaliste indépendant, Mamadou Diadje Sako d'Isax de la radio RFM, Bruno Djito Sekbedji de l'Indépendant et Youba Konaté du Zénith Balai. Je suis Mohamedou Touré à la technique, Salim Djouara.
Le Grand Dialogue.
Mesdames et messieurs, les attaques se sont encore multipliées cette semaine au Mali, faisant plusieurs morts. Un campement des Touaregs de la tribu des Imrades situé à une quarantaine de kilomètres de Menaka a été attaqué mardi matin par des terroristes. Au moins 4 civils ont été tués, dont un enfant et des personnes âgées, indique la même source. Bruno Djité Sekbedji, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ces attaques dans le pays ?
Bon, depuis un moment, ça fait déjà très longtemps, c'est une accalmie relative de temps en temps. Il y a toujours cette rivalité terrible entre le Gatia et la SEMA, donc de temps en temps, il y a des déflagrations pour soit un groupe replie et revient pour récupérer sa zone et ça dégénère. Vraiment, c'est une zone de non-droit, toute cette zone-là de Kidal jusqu'à vers la frontière algérienne. Je ne connais pas exactement aujourd'hui la cause qui a mis le feu aux poudres, mais c'est des rivalités terribles entre ces groupes-là. Et c'est comme ça qu'on doit assister à ça désormais.
Mamadou Diadje Sako, nous allons parler après des affrontements entre CMA et plateforme, mais pour le moment, qu'est-ce qui explique la recrudescence des attaques à travers le pays ?
Il n'y a pas de recrudescence, il faut dire que c'est la continuité. Peut-être Bruno a oublié de dire que cette crise, elle a été tout le temps globale, elle continue à être globale. Si les gens qui créent cette insécurité, c'est ce qu'on a tout le temps dit, quand chaque fois qu'il y a une crise, si la crise elle n'est pas cernée, elle devient une menace. Et quand la menace n'est pas repoussée, il y a attaque. Quand il y a attaque, il y a instabilité, il y a insécurité. Et si vous laissez des hommes et des femmes avec des armes, ils vont continuer à s'entretuer. Cela va de soi. Et on avait demandé lors de l'accord de désarmer tout le monde. Il n'y avait même pas eu de cantonnement d'abord à plus forte raison de désarmer. Donc ils vont continuer à s'entretuer.
Désarmer, ce sont les groupes armés qui devraient être désarmés aujourd'hui.
Tout le monde est armé aujourd'hui.
Aujourd'hui, il paraîtrait que ce sont des terroristes qui mènent ces
attaques.
Oui,
mais terroristes, moi je ne fais pas la différence entre terroristes et groupes armés. Ça dépend du camp qui tu te trouves, ça dépend de ton analyse. Dire que lui il est djihadiste, lui il est terroriste, toute personne qui prend une arme contre ses frères, on peut vous donner toutes sortes de qualifications. Voilà.
Amadou Mbetumbi, est-ce que vous pensez que le désarmement pourrait changer la situation ?
Je pense que le désarmement pourrait jouer un rôle important dans la situation, mais faudrait-il que l'on sache qui va désarmer qui ? Ça aussi, moi, je me pose cette question, je continue à me la poser d'ailleurs. Parce que les autorités chargées de désarmer n'arrivent pas à poser pied là où on doit désarmer. On n'arrive pas à cerner les groupes qui sont en belligérance dans cette situation. On n'arrive pas à faire la différence entre qui est terroriste, qui est groupe armé. Encore que les groupes armés ont été les premiers terroristes que nous avons connus. L'affaire d'Aguelhok est un rappel, Aguelhok est suffisamment un élément déterminant dans ce sens-là. Maintenant, qui est terroriste, qui ne l'est pas ? Donc moi, je pense que ça va être très difficile de désarmer à partir du moment où le processus a commencé. Il se bute à des réalités que nul n'ignore.
Youba Konaté, la situation se dégrade de jour en jour. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette situation ?
Ok, merci de me permettre de donner mon point de vue. Moi, je pense que le désarmement est une étape, est un impératif. Il faut désarmer forcément. Et le désarmement ici concerne, comment dirais-je, les groupes qui ont la revendication politique. Dès le début du processus, ça a été clairement défini. Il s'agit des groupes qui ont la revendication politique. Puisque tout le monde, tous les acteurs...
Vous parlez de la CMA ?
De la CMA, de la plateforme, tout. Tous ceux qui ont la revendication politique, nous pensons que quand nous parvenons à faire la différence avec ceux qui ont la revendication politique, ça assainit davantage le truc. C'est avec d'ailleurs ces groupes-là que nous avons le processus d'agir et engagé. Donc, et je pense que le désarmement est clairement consigné dans le processus d'Alger. Maintenant, jusque-là, les différents acteurs ont été laxistes sur l'application de ces niveaux-là. Et c'est tout ce qui, c'est ce qui crée tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui. Le désarmement est un impératif. Qu'est-ce que le désarmement va apporter? Le désarmement va permettre de comprendre, de faire la différence entre les groupes qui ont la revendication politique et les autres. Et les autres, là, c'est ensemble qu'on doit les combattre. Et je pense que tant qu'on ne va pas en arriver au désarmement, ça va être très compliqué de voir clair dans le jeu. Puisqu'il faudrait d'abord qu'on identifie l'ennemi. Jusque-là, la confusion est tellement atteint des degrés qu'on ne sait même pas qui combattre. Donc moi, je pense que c'est avec le désarmement qu'on va arriver à faire la différence entre les différents ennemis. Maintenant, en dehors maintenant des forces qui seront autorisées, à savoir l'armée malienne et tous les autres, tous ceux qui vont être appréhendés sur le terrain avec des armes seront considérés comme des ennemis.
Aujourd'hui, donc, concrètement, qu'est-ce qui empêche le désarmement, vu qu'il y a eu deux chronogrammes qui ont été reportés?
Moi, je pense que c'est simplement la volonté politique ou une certaine négligence, parce que les différents acteurs, à un moment donné, la puissance des groupes armés sur le terrain était telle que les gens ont pensé que si on arrivait politiquement, ou du moins avec des formules comme la mise en place des autorités intérimaires et autres, on allait pouvoir pousser les groupes armés au désarmement. C'était une fausse lecture. Et on voit que ces gens-là, tant qu'ils vont continuer à disposer des armes sur le terrain, les derniers affrontements entre la CMA et les Gacha en disent long sur ce processus-là. Le désarmement est un impératif. Il faut vraiment désarmer ces groupes pour qu'on puisse voir clair et, comment dirais-je, faire la différence entre les acteurs.
Mamadou Diadji Sakho, par rapport au retour de l'administration à Kidal, il y a eu deux chronogrammes reportés. Le gouvernement accuse les groupes armés. Les groupes armés s'accuse, selon vous, qu'est-ce qui empêche le processus de démarrer?
Ce qui empêche, on vient de parler d'un volet très très important de l'accord, qui me paraît très important pour tout ce que nous sommes en train de vivre. Le Mali n'a pas besoin aujourd'hui de modifier sa constitution pour désarmer qui que ce soit. Le Mali n'a pas besoin de changer sa constitution pour que l'administration soit là. Notre ancienne constitution nous permet et permet à l'État d'exercer sa souveraineté un peu partout. Mais maintenant, moi, ce que j'accuse, il va falloir que le gouvernement ait un courage de dire à l'ensemble de la communauté nationale et internationale, dire que voilà, vous êtes tous et nous, depuis 2013, vous êtes là. Chacun essaie de jouer un rôle qu'il ne joue pas. Sinon, aujourd'hui, le monde entier est en train d'assister. On a été quand même dans un élan de grande solidarité. Tout le monde a voulu venir nous aider, mais au contraire, tout le monde est venu chercher son intérêt. Aujourd'hui, dire que l'administration malienne n'est pas à Kidal, ça, c'est la faute à la communauté internationale. Nous avons connu le Serval, on a connu Barkhane, on a connu Minusma, on vient de connaître G5. Qu'est-ce qui empêche à toutes ces puissances-là d'aider l'État malien à exercer sa souveraineté? Donc, la faute revient à la communauté internationale. Vous avez poussé le Mali, vous avez cherché à tordre nos bras pour nous dire de signer un accord qui n'était pas la volonté populaire du peuple malien. Et cet accord-là est signé, sa mise en œuvre pose problème parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Le gouvernement malien a fait beaucoup d'efforts sur nous. On nous a demandé de faire des choses qu'on ne voulait même pas faire. Jusqu'à présent, on continue même à nous tordre la main. Vous nous avez dit, signez un accord, on l'a signé. Faites la conférence d'entente nationale, on a eu à faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, jusqu'à aller tous et maintenant notre raison d'être. Et ça, c'est trop demandé au peuple malien. Ça suffit. Ça suffit.
Bruno Sekbedi, êtes-vous d'accord avec M. Mamadou Diadji Sakho?
Bon, la communauté internationale, c'est vrai, elle est actrice déterminante dans cette crise-là. Mais moi, je crois qu'il y a d'abord la part de l'État, le premier responsable du pays. Il faut signaler quand même qu'il a laissé le temps à la crise de s'enliser. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, même l'accord qui a été signé, l'accord préliminaire, je veux dire, de Ouaga, précisait quand même que c'est un certain timing qui devrait accélérer les choses. Donc la crise s'est enlisée, a poussé des racines au point que, pour revenir un peu au point que nous soulignions tout à l'heure, le désarmement seul ne sera pas, enfin ce sera un facteur, mais les gens ont fait des replis identitaires au point que les familles, les groupes se sont armés aussi. Ça aussi c'est un facteur déterminant. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui l'État n'est pas à Kidal, je ne sais pas, l'État s'est affaissé, l'autorité de l'État est à terre au point que il manque ce courage-là pour aller avec dynamisme, avec détermination, pour forcer un peu les choses, pour que l'État aille s'installer avec l'administration, avec la force publique. Oui. C'est vrai que la communauté internationale va favoriser, mais en voyant cette détermination des plus hautes autorités, je crois que ça pourra être facile. Mais si on va de négociation en négociation, on n'ira que dans les agendas 20 juin, 20 juillet, 20 août, je ne sais pas, ce ne sera pas facile.
Youba Konaté, Mamadou Diadié Sakho parle de la communauté internationale et Bruno Segbedji qui parle de l'État malien.
Moi, je pense que la responsabilité est d'abord nationale. La communauté internationale a un rôle carrément d'accompagnateur. Il nous accompagne. Mais quand vous regardez un peu l'évolution de cette crise-là que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire juste après l'intervention de la force Serval, vous avez vu, nous avons fait presque 2 ans d'accalmie. C'est vrai, tout le monde a compris que les gars étaient sur le terrain, ils étaient en train de se réorganiser. Mais entre-temps, nous, est-ce que nous, on a continué à nous réorganiser? Parce que pendant cette période-là, l'État du Mali et les Maliens, de façon générale, on continue à vivre comme dans une situation normale. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'on était dans une situation d'exception et qu'on devrait faire le double ou le triple de ce que nous sommes en train de faire pour reconstruire notre armée. C'est ce qui a manqué. Puisque quand vous regardez, vous avez vu qu'il y a pendant les 2 ans, presque 3 ans d'accalmie, les gars étaient sur le terrain, ils étaient en train de se réorganiser parce qu'ils avaient été carrément déboussolés par l'intervention de Serval. Donc, nous, c'est cette période-là que nous, on aurait dû mettre en place, au profit, pour pouvoir aussi nous réorganiser et réorganiser ardemment nos forces armées.
Est-ce que Serval a été beaucoup plus efficace que Barkhane?
Je pense que oui, parce que l'objectif de Serval, c'était d'éradiquer la menace immédiate qui était là, et je pense qu'elle a été éradiquée. Et donc, je pense à ce titre-là, puisque bon, maintenant, je pense que les gens attendent trop de Barkhane. Quand vous voyez, vous prenez les effectifs en présence et l'espace, vous comprenez que les gars, ils sont obligés de jouer les sapeurs-pompiers. Et moi, je pense que la responsabilité est d'abord première. Et la responsabilité première est d'abord malienne. Il faut que nous revenons, c'est-à-dire qu'aux efforts que jusque-là nous avons refusé de faire, comprendre que notre pays est en situation de guerre et comprendre que nous n'avons d'autres alternatives que de former une armée à la hauteur de nos défis. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. On va continuer à tourner et on s'enlise.
Omotimé, où en sommes-nous avec la formation de l'armée malienne, notamment avec l'EUTM?
Je crois que lors du dernier débat, on en avait parlé. L'EUTM est en train de former effectivement nos militaires, à souhait d'ailleurs.
Moi, j'ai beaucoup de réserves sur l'EUTM. Hein. C'est quelque chose de très tropicalisé.
Est-ce que l'impact est visible sur le terrain?
L'impact n'est pas...
Positif, bien sûr.
Positif, visible ou pas, je ne sais pas trop. Mais nous rencontrons chaque jour des défaites sur le terrain. L'armée malienne est tout le temps prise dans des embuscades. Et nous n'en sortons malheureusement que des faits, le plus souvent, avec des bilans qui sont vraiment désagréables à entendre. Franchement.
À ce niveau, mais, si vous permettez, l'état psychologique des hommes de troupes, des hommes du terrain, c'est important. Et cet état psychologique, c'est pas seulement la formation. On a beau leur inculquer toutes les techniques. Je reviens un peu à Youba, la responsabilité des autorités. Lorsque les militaires sur le terrain sentent que les autorités n'ont pas cet engagement...
Vous risquez d'être poursuivi pour désobéissance.
Je dis simplement que lorsque les militaires ne sentent pas l'accompagnement qu'il faut des plus hautes autorités, on a beau leur inculquer toutes les techniques. Ouais. Lorsque ça pète, ils peuvent hésiter avant de se mettre.
Répli stratégique.
Comment pouvez-vous expliquer que dans ce pays-là, sauvé par Serval, comme Youba le rappelait, qu'on perde du temps à acheter un avion présidentiel et avec tout ce que cela... Comment vous pouvez l'expliquer? Avec tous les derniers développements.
Quand vous parlez de cet avion et ne pas avoir le courage de prendre cet avion pour aller à Kidal.
Bon, ça c'est une parenthèse.
Donc je donne raison carrément à Chose. Parlant bien sûr de... Quand Youba disait, se posait la question, qui combattre? La question, c'est le même questionnement que je m'étais posé au tout début, n'est-ce pas? Parce que apparemment, c'est un flou qui est organisé autour de tout ça, au point que nous ne savons pas quel est le vrai ennemi que nous avons. Et là, je reviens encore à ceux-là, aux acteurs de Hagelhock, entre guillemets. Je reviens aux acteurs de Hagelhock qui ont créé le désordre pour qu'on ne sache pas qui a attaqué ou qui est en conflit. Donc je ferme cette parenthèse. Oui. Parlant du retour de l'administration à Kidal, vous avez posé la question.
Oui.
Je disais encore sur ce même plateau que c'était du dilatoire. Du 20 juin au 20 juillet, prochaine destination, 20 août peut-être, 20 septembre, et que sais-je encore. L'administration va retourner, mais il y a des préalables à faire. Tant que ces préalables ne sont pas gérés...
Les préalables comme ?
C'est-à-dire que je vais ajouter, mm-hmm. parce qu'il y a un risque. Hein. Le risque, c'est quoi ? Avec le retour, comment dirais-je, désiré de l'administration, là, c'est que l'administration risque d'être confinée. Ils vont retourner, mais ils vont être confinés. Comme l'armée, une partie de l'armée qu'on va aller envoyer là-bas, les moques tout de suite, elle risque d'être confinée. C'est ça le problème. À quoi bon d'amener les commandants, les gouverneurs et autres, aller les cantonner à Kidal, ils sont confinés, ils n'ont aucune marge de manœuvre et dire qu'ils sont là-bas. Le préalable à Kidal, tout le monde le connaît. Il faut que on restitue la ville de Kidal.
On va rester à Kidal. Les affrontements ont repris entre la CMA et la plateforme. Qu'est-ce qui explique cette reprise des combats entre les deux groupes armés?
Je le répète une fois de plus, la nature a horreur du vide. L'État est absent. La zone est une zone de non-droit. C'est un passage de la drogue, des armes, de tout. Il n'y a personne pour contrôler. Et quand les intérêts des groupes armés se chevauchent, ils vont aux armes. Tout est fait pour le contrôle de la route, de la drogue, ou des couloirs de la drogue et des armes. Point. Les trafics en tout genre. SEMA, Gatia, plateforme, même combat. Ils sont là juste pour se faire, bien sûr, la poche. Et gare à celui qui se met au travers, bien sûr, de leur route. Point final. L'arbitre, à ce niveau, devait être l'État malien. Dans sa souveraineté, l'État dit « Je ne veux pas voir cette activité sur mon territoire malien, sur mon territoire, j'assume, l'État assume toutes ses responsabilités. »
Lors du sommet du G5 Sahel, il y a le président français qui avait souligné que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta avait promis de sanctionner ceux qui violeront l'accord.
Je répète encore, le président Ibrahim Boubacar Keïta ne peut sanctionner personne, parce que lui-même n'existe pas en réalité. Le président de la République, en personne, en chair et en os, il est là. Mais le président de la République, garant de la souveraineté nationale, n'existe pas. En tant qu'institution, n'existe pas. Ça fait mal aux gens quand on le dit. Ça fait vraiment mal aux gens quand on le dit. Mais lorsque le président de la République lui-même dit que rien ne va l'envoyer sur cette partie de son territoire, je dis que le président de la République, il est absent.
Bruno, êtes-vous d'accord avec Ombotimbe ?
C'est vrai qu'il y a un certain défaitisme, hein, un certain défaitisme. Ne serait-ce que, il y a certains aspects qui ressemblent à de l'anecdote, mais c'est de la triste réalité. Quand il y a des déflagrations dans ces zones, censées être sur le territoire malien, et que on voit le chef de l'État dans un forum culturel, il faut quand même tiquer. Ça tique. On se dit, voilà un pays, une zone du territoire qui, petit à petit, est en train d'échapper. Aujourd'hui, à Kwazimat, on a comme l'impression qu'on a abandonné. On se pose des questions. Quand on voit le chef de l'État ou bien les autorités qui ne sentent pas, on n'affiche pas cette détermination-là, on se demande. On est perplexe.
Je ne te coupe pas.
Avec Mamadou Diadé,
je ne te coupe pas, Bruno.
Mamadou Ombotimbe, vous avez la parole.
À Menaka, il y a une dizaine de personnes.
Ombotimbe, vous aurez la parole.
Il écrit et moi, je parle beaucoup à la radio. Donc, j'aime la parole.
Allez-y.
Mais maintenant, ce que vous posez comme problème, ça c'est prévisible, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, tant que ce qu'on a dit au début de ce débat-là, tant qu'il n'y a pas de désarmement, les affrontements vont continuer. C'est ce que l'autre là disait, le regretté Sada Samake, il dit qu'il y aura tout le temps des attaques. Et lui, de son vivant jusqu'à sa mort, il y a eu tout le temps d'attaques. Maintenant, ce que Omotime voulait dire, un président de la République qui avait envoyé son premier ministre pour la revoir, en réalité, ce qui se passe à Kidal, lui, de son retour, qui a été accueilli comme un héros. Et à notre grande surprise, c'est ce dernier-là qui est poursuivi aujourd'hui. Et lui aussi, dans sa toute dernière déclaration, dit qu'aucune fanfaronnade politicienne ne va me pousser à prendre l'avion, qui a été la toute première priorité de son gouvernement, le prendre et aller à Kidal. Ça fait peur. Et l'une de ça également, là, votre grande institution qui est au-dessus de nous tous, parce que c'est elle qui nous permet de modifier, de changer, de faire tout ce qu'on veut avec notre loi fondamentale, nous parle d'insécurité résiduelle dans l'état actuel des choses. Ça fait peur, mon frère. Ça fait peur.
Voilà. Yuba, vous voulez juste réagir. Ajouter, hein, quand le président Macron dit au président Ibeka d'assurer ce qu'on sanctionne.
Il disait que c'est le président lui-même, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a promis de sanctionner.
Voilà, oui, mais le président ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a une méconnaissance. C'est un scandale. Parce que c'est l'arbitre international de ce processus, il est là. C'est la communauté internationale, c'est l'AMINUSMA, c'est l'Algérie. Il y a un arbitre international. C'est la Nations Unies, c'est pas le Mali. Le Mali était un acteur.
Le Mali a sollicité.
Mais dès le début du processus, il avait dit clairement, et c'est prévu dans les clauses de l'accord, mm-hmm. que des sanctions sont prévues ouais. pour ceux qui ne respectent pas les engagements. Mm-hmm. Moi, je pense que dès le début, on aurait dû appliquer ces sanctions-là. C'est ce qui a manqué.
Pourquoi il n'y a pas de sanctions alors?
Justement. C'est le laxisme qui continue parce que les différents acteurs, à un moment ou à un autre, vont dire, se sont entendus dire que non, en sanctionnant, est-ce qu'on ne peut pas amener ces gens-là à se radicaliser?
C'est
la peur.
À remettre en cause le processus.
À remettre en cause le processus. Donc, ce qui a fait qu'on a fermé les yeux sur un certain nombre de pratiques et un certain nombre de violations qui, aujourd'hui, sont en train de créer véritablement problème. Parce que si dès le début, on avait été, tranchant sur la question et appliqué tout de suite les sanctions, peut-être que ça aurait été mieux que ce que nous vivons aujourd'hui parce que véritablement c'est que l'option prise n'est pas en train de payer et nous sommes toujours du fût dans cette situation et je ne sais pas quand est-ce qu'on va en s'en sortir.
Bruno, certains observateurs pensent que par rapport aux affrontements entre CMA et Gatcha, que c'est la MINUSMA qui devrait intervenir alors qu'elle ne le fait pas.
On nous a toujours précisé le mandat de la MINUSMA. C'est le mandat de la MINUSMA, c'est pas d'être, c'est de faciliter la mise en œuvre de l'accord. Du moins, c'est le dernier mandat renouvelé, là. C'est faciliter la mise en œuvre, l'aspect politique de... Maintenant que des acteurs signataires de l'accord s'enfrontent, ils ont violé le cessez-le-feu, sanctions. Il doit y avoir des sanctions. Mais la communauté internationale devrait s'allier à l'État malien pour la mise en œuvre de ces sanctions prévues par... Il se fait que l'État malien est tellement faible que la communauté internationale même va se mettre à réfléchir. Si on doit diligenter ces accords-là, on remettrait tout à zéro. Parce que, comme Yuba le disait, les groupes armés là, se radicaliseraient et quitteraient le processus. Et donc, on reprendrait tout à zéro. Donc, ça fait que finalement, ces sanctions-là apparaissent comme un épouvantail. On leur montre, on va vous sanctionner. Et finalement, ils s'accoutument. Ils se disent, oh, les gens-là, c'est des bons plaisantins. Et ils disent, ils vont sanctionner, ils ne peuvent pas. En quoi ils peuvent... Donc, finalement, on tourne en rond.
Ombotimé, est-ce que vous pensez également que la MINUSMA ne peut pas intervenir que, par rapport aux affrontements entre CMA et Gatcha?
Non, moi, je m'en tiens au mandat de la MINUSMA. Et Bruno l'a tantôt l'a rappelé tout de suite, l'aménagement ne peut pas être une force tampon, peut-être, je ne sais pas, d'intervention en faveur d'un groupe ou d'autre. Non, elle est peut-être là pour assurer la sécurité des populations civiles et faciliter la mise en œuvre de l'accord. Moi, je m'en tiens vraiment aux missions qui lui sont assignées. Voilà.
Oui, Mamoudou Diaye Sakho.
Il faut reconnaître également que tout le monde se refuse derrière ce mandat d'accompagnement au cas où quelqu'un s'oppose à sa mise en œuvre. La MINUSMA ne devrait pas rester comme ce qu'elle est. Moi, on m'envoie une mission. Il y a des obstacles sur ma mission. Et je dois intervenir. Dire que la MINUSMA aujourd'hui n'a qu'un mandat d'interposition et un mandat de stabilisation. Et celui qui déstabilise. Il faut qu'on se pose maintenant ces questions-là. Celui qui déstabilise, celui qui s'oppose à la mise en œuvre d'un accord signé en bonne... Personne n'a été obligé. Il y en a qui ont signé le 15 mai, d'autres ont signé le 20. Et ce 20-20-20 se répète là. Donc, si toi-même, ce qui t'est assigné, tu n'arrives pas à l'honorer, on doit te sanctionner. Voilà, donc l'État malien doit être accompagné dans l'application, l'aménagement et la CEMA, la plateforme. Tout le monde doit être accompagné.
Alors, est-ce que vous pensez que le mandat de l'aménagement actuel devrait évoluer ou que ce mandat même devrait lui permettre d'intervenir?
Ce mandat doit lui permettre d'intervenir. Du moment que je suis là pour la mise en œuvre de quelque chose, il y a des obstacles, il y a des oppositions. mais je dois intervenir. On n'a même plus besoin de renouveler, de prendre un mandat spécial pour ça.
Yuba, qu'en pensez-vous?
C'est que moi, pour ce qui est du mandat de l'aménagement, moi je pense qu'il y a une clarification à apporter. Puisque jusque-là, finalement, on ne comprend même pas ce qui se passe. Parce qu'à un moment, moi je me rappelle très bien, il y a un an de cela, on avait espéré, le ministre des Affaires étrangères à l'époque avait fait un déplacement à New York, au Conseil de sécurité pour obtenir un mandat plus fort. Et c'est-à-dire placer le Mali sous chapitre 7, à un moment donné. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous, tous les acteurs avaient pensé que c'était un acquis. Bon, je sais qu'est-ce qui se passe. Donc, peut-être qu'il y a une clarification. Il faudrait que l'aménagement, elle aussi, communique sur ces aspects-là. Parce que les populations continuent à se poser des questions. Quand il y a de tels niveaux d'affrontement entre les différents acteurs et que l'aménagement reste en dehors du tout, bon, les gens se posent des questions. Alors que nous, on a cru comprendre à un moment donné que l'aménagement avait été renforcé, que le Mali était sous chapitre 7, ce qui, normalement, devait le permettre d'intervenir à tout bout de champ et d'anéantir toutes les menaces qui s'attaquent au processus. Et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, peut-être que les responsables de l'aménagement sont interpellés pour qu'ils disent qu'en est-il du chapitre d'intervention du Mali. On ne comprend pas.
Omotimbe, la situation est calme aujourd'hui sur place à Kidal de source locale, mais il y a toujours des tensions. Alors, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ces affrontements?
J'ai vraiment pas de réponse à ça. Qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ces affrontements? C'est juste le bon sens des deux parties. Malheureusement, est-ce que ça va prévaloir? C'est la question que je me pose.
Avez-vous une réponse?
Oui, ce qui peut mettre fin, il va falloir se dire d'abord qui est roi à Kidal. C'est l'État malien et la communauté internationale qui peuvent mettre fin à ça. C'est de dire à tout terroriste, à tout bandit, et de rentrer à la maison, c'est tout. C'est l'État. C'est l'État. L'État a ses amis, et ses amis sont entre autres la communauté internationale. C'est l'État, pas en formant des milices. Hein. Il faut que l'État ait le courage de ne pas se cacher derrière une milice pour ramener la paix à Kidal. Non, non, c'est l'État qui doit maintenant taper sur la table. Voici ce que nous avons fait. Nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin de la signature de l'accord à nos jours. Voici les actes posés par l'État malien. Et de taper sur la table toute personne qui va s'opposer maintenant à son application, de les sanctionner. Il faut qu'il y ait des sanctions. C'est les sanctions, mon frère, qui pourront amener la stabilité, la paix à Kidal.
Alors, nous allons parler de la justice populaire qui devient de plus en plus récurrente dans le pays. Cette semaine encore, deux braqueurs ont été brûlés vifs au marché Sougounikoura de Médine à Bamako. Les deux hommes ont été interpellés par la foule après avoir tenté de braquer une agence de transfert d'argent. Les autorités ont déploré cet acte qu'elles qualifient d'inacceptable. Bruno, qu'est-ce qui explique cette recrudescence de vindicte populaire?
Bon, c'est des causes multiples, hein, selon moi. D'abord, il faut lier ça à la gouvernance du secteur de la justice. Je crois que l'être humain, avec son instinct de conservation, son instinct de survie, est prêt à réagir face à toute agression. Maintenant, l'État, toujours on revient à l'État, on va nous faire le procès d'être en train de nous faire le procès. Si l'État, avec son mécanisme de judiciaire, n'arrive pas à sanctionner à hauteur de souhait. Je prends un exemple simple. Lorsque il y a des cas de vol et que des gens constatent après que ça a été géré avec laxisme, les présumés interpellés se sont retrouvés après libres, bon, ça pousse les gens à développer ce penchant d'autodéfense et à régler les comptes. Donc cette justice privée-là se développe comme ça parce que les gens n'ont plus confiance à l'État. Donc je crois que la gouvernance y est pour quelque chose. Ensuite, j'ai comme l'impression qu'il y a un malaise au sein de la population, que c'est tendu. Potentiellement, les gens sont, avec tout ce qu'on vit, il n'y a pas véritablement de succès au plan gouvernance sociale, les denrées, les prix. Donc, les gens sont prêts à se régler les comptes rapidement. Donc, si tu es malheureux, tu as été découvert comme voleur, rapidement, ton sort est réglé, on te jette l'essence, on te brûle. Donc, je crois que c'est lié un peu à la gouvernance et puis il faut former les gens. La justice doit faire son travail. Quoi,
pour que... Yuba, est-ce que vous pensez aussi que les raisons sont la mauvaise gouvernance, la corruption?
Il n'y a rien à faire, c'est juste ça. Et aussi, comment dirais-je, c'est-à-dire que tout le manque d'autorité de l'État. Et quand quand vous prenez aujourd'hui ce qui s'est fait, le ministre de la Justice, les effets d'annonce surtout, quoi. Vous voyez, le ministre de la Justice, depuis Mopti, a réagi à cette situation, a dit clairement qu'il va demander au procureur d'instruire une situation et de prendre les images et de retrouver. Mais vous allez constater que rien de tout cela ne sera. Donc, ce qui fait que les gens, il n'y a rien en face. Les gens ne respectent rien parce que quand vous êtes en faute, il n'y a pas de sanctions, vous n'êtes rattrapé par rien. Donc, les gens peuvent continuer à agir impunément. C'est ça le problème. Puisque la première responsabilité est celle de l'État. C'est l'État qui doit, veiller à la sécurité de tout le monde, de tous les Maliens. Donc, quand cette responsabilité-là faillit tout de suite, il y a des brèches qui s'ouvrent, les gens s'engouffrent là-dedans. Et c'est, ça s'illustre par des dérapages de la sorte. Et je pense que l'État a tout intérêt à répandre. Parce que si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la réaction de. J'ai dit, quand vous regardez un truc, par exemple, pour ce qui est de la réforme de l'armée, mais de 2013 à aujourd'hui, on aurait peut-être. Tous les Maliens auraient été, la communauté internationale, tout le monde allait comprendre que nous sommes véritablement en train de changer quelque chose. Si on avait vu, par exemple, une nouvelle unité combattante au Mali, c'est-à-dire que de 2000, 3000 hommes, des gens aguerris que tout le monde reconnaît, ah non, ces gens-là, attention. Mais rien de tout cela. Bon, voyez, je m'excuse, mais c'est ce que je voulais vraiment ouvrir la parenthèse.
Ok. Alors, Ombo Timbe, par rapport à la déclaration du ministre de la Justice à Mopti, il a promis des mesures. Il a également déclaré qu'il y a certaines personnes qui abusent de leur liberté. Qu'en pensez-vous?
Oui, quand l'individu abuse de sa liberté, c'est qu'il ne voit rien au-dessus de sa tête. Il ne voit rien, Yuba l'a dit, il ne voit rien au-dessus de sa tête. C'est ce qui fait que l'individu abuse de sa liberté. Notre liberté a des limites, elle s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est très clair. Alors, nous sommes censés être régis par des textes et lois, n'est-ce pas, dans une république normale. Malheureusement, si nous nous rendons compte qu'au-dessus de notre tête, il n'existe pas ces lois, n'existe pas ces textes, ne sont pas appliqués, qu'il n'y a personne qui chose, et je dis, on fera ce qu'on peut, ou ce qu'on veut. Yuba l'a dit, les gens ont appréhendé des bandits qui s'apprêtaient à attaquer une institution bancaire. Mais ils savent qu'en arrêtant ces voleurs et en les remettant à la police ou à la gendarmerie, ils allaient peut-être les rencontrer demain, le lendemain matin dans la rue. Ils ont donc jugé bon de régler leurs comptes aux deux malfrats. Certes, ce n'est pas une bonne chose. On est dans un pays où il y a la justice, entre guillemets. On aurait dû les arrêter et les mettre à la disposition de la justice. Mais si cette justice ne fait pas bien son travail, la rue fait son travail. Encore que le ministre a dit, une commission d'enquête va être mise en place. Mais là aussi, c'est des effets d'annonce. Mise en place pour traquer qui? Des images? Est-ce qu'on a des caméras? Est-ce qu'on a des caméras cachées? Ou est-ce qu'on a des caméras qui sont installées dans toutes les rues de Bamako pour identifier ceux-là qui ont arrêté ou appréhendé ces malfrats-là? Mais c'est la justice populaire, comme vous l'avez si bien dit. C'est 2000, 3000, 4000 personnes du marché de Médine qui sont animées par leur propre survie. Parce qu'ils sont victimes, eux aussi. Ils peuvent être victimes demain d'un braquage du même genre, ce que l'on voit à longueur de journée dans les rues de Bamako, sans que l'État ne sévisse. Encore, on appelle ça de l'insécurité résiduelle. Je veux bien prêter le terme aux honorables juges de la Cour.
Manassa, il faut dire Manassa.
Aux honorables juges de la Cour, de la Cour constitutionnelle, qui disent que ça s'appelle de l'insécurité résiduelle. Quand l'individu qui a bavé pendant des années pour obtenir le minimum de choses pour de survie, qu'on le dépossède de ce qu'il a gagné pendant 20 ans, 30 ans, et en lui tirant à bout portant, n'est-ce pas, pour lui arracher ceci, franchement, c'est inconcevable. Faudrait-il que l'État s'assume pleinement et entièrement, assure la sécurité des citoyens, et c'est un droit constitutionnel que nous réclamons, que nous revendiquons.
Mamoru Diadié Sakho, voilà. Même si, entre guillemets, la justice ne fait pas son travail, est-ce que la rue devrait faire sa propre justice?
Je suis de tout temps légaliste. Et il n'y a aucune justification à ça. Mais il y a une explication. Les autres, je ne veux pas revenir sur l'explication, parce que mes confrères en ont déjà parlé. Mais il n'y a aucune manière qui peut justifier ça. Mais cependant, ne mettez pas votre peuple dans une situation de nécessité et de légitime défense, comme Omo Timé l'a dit. Si vous laissez vos populations assurer leur propre sécurité, à se rendre justice, c'est très grave. Parce que la justice, c'est le dernier rempart. Le maillon fort d'une démocratie, c'est la justice. Il va falloir qu'elle soit juste, qu'elle soit équitable, qu'elle soit disponible. Mais ce qu'ils ont dit, mais c'est grave. C'est grave ce que nous vivons dans ce pays-là aujourd'hui. Et on ne fait pas de l'apologie du terrorisme, du djihadisme, du banditisme, du crime. Mais il ne faut pas pousser que les gens arrivent à croire que certaines choses restent impunies dans notre pays. Il ne faut pas cultiver, il faut pas enseigner la culture de la violence. Mettre en tête des gens comme quoi qu'on peut faire ce qu'on veut. Et souvent, vous voyez en longueur de journée, c'est là qu'ils prennent des armes, que c'est ceux-là qui sont plus protégés que ceux-là même qui doivent être protégés. L'État a l'obligation aujourd'hui de protéger tous les Maliens. Et c'est dommage, comme Omo Timé l'a dit, on doit rectifier. Parce que tout ça, là, ça est en train de nous montrer qu'effectivement, l'insécurité, elle n'est pas rigidielle. Elle est là, elle est menaçante. Et si elle n'est pas cernée, nous serons dans l'instabilité totale et nous serons dans l'insécurité totale. Et on ne va plus parler de rigidiel, parce qu'il n'y a plus de rigidie.
Voilà. Bruno, avant de vous donner la parole.
Juste à ajouter, tout le monde a déjà parlé de cela. L'État doit inspirer la confiance. J'ai comme l'impression que, avec la crise aussi, cette justice populaire qui se développe, c'est un peu, de façon lointaine, c'est lié aussi à la crise. Quand des citoyens observent de loin, sur le théâtre de Mopti, etc., que des gens sont attaqués, on arrache des bétails, etc., et que l'État, par des communiqués, on est tellement habitué, on a tellement été abreuvé de communiqués, l'État condamne énergiquement, ou ouvre une enquête pour... Et après, c'est fini. C'est le fiasco. Il y a eu des attentats jusqu'à Radisson. Il y a eu des enquêtes. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment des... Donc l'État annonce, comme
est-ce qu'il est même possible de sanctionner les personnes qui ont fait ça, puisque ça a été fait par une foule.
Il doit avoir cette volonté politique de sanctionner. Voilà. Avec l'avènement du président de la République, je me rappelle lors de la prestation de serment, le 4 septembre au CICB, son discours annonçait déjà que plus jamais personne ne sera au-dessus de la loi. Le discours avait tellement porté la salle.
Musclé.
Mais après, dans les faits, personne ne sera au-dessus de la loi. Mais on a vu des choses.
Un tigre en papier.
Dans les cas de gouvernance.
Moi, je reviens. Les enquêtes de Banconi.
Avec l'effet de l'avion. Mais les journaux ont tellement publié des choses. Mais des gens cités, présumés, innocents, mais ont été promus.
Plutôt promus. Mais,
donc rien ne nous a dit qu'ils ont été blanchis ou pas. Mais ils ont été promus. Ils sont aux affaires. On les voit. Donc quand les gens voient ça. Les gens le Malien lambda voit ça, il va se dire tout est permis dans ce pays désormais. Donc, alors, il n'y a aucune sanction.
Nous avons quelques minutes pour parler de tentatives d'assassinat et de menaces de mort. On a vu Maréchal Madou qui a échappé à une tentative de meurtre en recevant une balle à la poitrine. Également, sur les réseaux sociaux, on voit fréquemment des personnes signaler qu'elles ont reçu des menaces de mort. Monsieur Omo Timé, qu'en pensez-vous?
Très bonne question. À longueur de journée, les citoyens sont inquiétés. À longueur de journée. Et d'ailleurs, les gens ne s'en cachent plus. Quand des hauts responsables de ce pays, sur des plateaux de télévision, disent « on connaît chez vous », c'est quand même préoccupant. À la grande mosquée de Bamako, des fidèles ont dit « le sang va couler, le sang a coulé ». Je disais des hauts responsables de ce pays qui disent sur des plateaux de télévision « nous connaissons chez vous tous ». Je dis c'est assez préoccupant. Et ce qui est arrivé à Madou, nous le déplorons, nous souhaitons prendre l'établissement à notre confrère Madou, mais Madou ne fait qu'exprimer ce qu'il pense. Maintenant, ceux qui pensent qu'il l'exprime mal, mais il y a lieu de former Madou.
comme beaucoup d'autres comme nous, on va nous former. Nous souhaitons vivement que l'État mette la main à la poche et organise une formation pour nous, journalistes, pour qu'on ne dérape pas. Mais parlons-en. Ça nous rappelle encore ce qui est arrivé au Sugouni Kroa. Des gens ont volé. Au lieu de les prendre pour les mettre à la disposition de la justice, on les brûle. Quelqu'un a dénoncé la mauvaise gouvernance. Au lieu de l'interpeller, intenter une action en justice contre lui, on préfère lui envoyer des loubars pour lui tirer dessus. On est dans quel pays?
Est-ce que vous pensez que ces cas sont liés? Est-ce que vous pensez que
cette tentative d'assassinat... Non, j'ai pris deux exemples. Simple, hein. Des gens ont été pris en flagrant délit de vol. Ils ont été brûlés vifs par des populations furieuses.
Je parlais de la tentative d'assassinat et le fait qu'il est un activiste.
Mais il n'y a pas de meilleure explication que ce qu'il fait comme activité. Madou, au truc, n'avait de problème avec personne. Problème socialement, il n'avait de problème avec personne.
Yuba, est-ce que vous pensez la même chose?
Oui, non, je pense que c'est lié vraiment, véritablement à son activité. Hein. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, qui sont les acteurs? Moi, je ne saurais le dire. Mais ce que je voudrais dire aussi à ce niveau, c'est qu'on vient de franchir un autre palier, puisque la violence et l'assassinat politique ne sont pas des instruments très utilisés au Mali. Puisque véritablement, on en voulait à la vie de Madou, puisque quand on vous explique un peu la scène, c'est véritablement sa vie qui était... il a été sauvé par le miracle. Donc c'est un palier qui vient d'être franchi dans, comment dirais-je, le climat politique dans notre pays, et c'est déplorable parce que jusque-là, en tout cas, vous prenez toute l'histoire de notre pays, ces méthodes-là ne sont pas très souvent pratiquées ici, et ça, c'est ce qui fait que c'est inquiétant. Ensuite, je voulais ajouter que, d'autant plus que aujourd'hui, c'est vrai, il y a un vide carrément, hein, par rapport à la législation sur la gestion de ces réseaux sociaux-là, c'est vrai. Mais il est important de comprendre que, autant vous avez des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont en train de s'attaquer au pouvoir, autant il y a des acteurs de ces mêmes réseaux sociaux qui défendent avec les mêmes méthodes le pouvoir en place. Donc, si on regarde un peu de près, c'est un peu équilibré. Donc, je ne pense pas que vraiment s'en prendre physiquement à la vie des gens comme ça soit une solution pour les uns. De toutes les façons, vous Malou saute aujourd'hui, il y aura demain un autre Malou, c'est comme ça. Tant que l'injustice et tout ce que nous avons déploré comme entorse à la démocratie, au développement, à l'inégalité des chances entre les gens vont continuer à s'exprimer et il n'y a rien à faire pour ça. Et c'est ce que les gens, les tenants du pouvoir doivent comprendre. Ce n'est pas des questions de personnes, c'est des questions de structuration de la vie. On a tout intérêt à ce qu'on organise pour que notre vie et ça s'améliore et qu'il y ait plus de justice et d'équité sociale.
Par rapport à ces personnes qui disent recevoir des menaces de mort, est-ce que les services de renseignement ne peuvent-ils pas aider à identifier les auteurs de ces menaces?
Non, mais les menaces, là, on n'a pas besoin de les identifier. Comme Otimé vous l'a dit tout de suite, là, c'est public. Et moi, je ne vais jamais sortir de mon schéma. Il y a crise, il y a menace, il y a attaque. On sait qui a menacé. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu une enquête par rapport à ça. Déjà, on menaçait publiquement. Ce n'est pas des super-hommes. Hein.
Non, même au téléphone, les numéros...
Non, laissons les téléphones. Laissons les téléphones. Mais il y a eu des menaces publiques. Des hommes publics ont menacé les citoyens maliens. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas en sécurité, mon frère. Moi non plus. Personne n'est en sécurité dans ce pays. Et il y a eu des menaces publiques. C'est pas parce qu'on t'a appelé comme l'autre là voulait, Yuba voulait dire, par téléphone masqué. Non, non, on a dit le sang va couler. On a dit on connaissait vous. Donc ils vont attendre jusqu'à ce qu'on aille nous chercher chez nous pour qu'il y ait enquête. Non, mais ne faisons pas le métier après
Bruno,
la mort.
Pourquoi ces menaces sont faites et l'État, la justice ne réagit pas?
Bon, c'est toujours lié à la crise. Hein. Je disais tantôt que les nerfs sont à fleur de peau. Les gens sont tellement sur les nerfs que les gens finissent par dire beaucoup de choses. Je compatis à ce qui est arrivé à Madou, mais il faut aussi que cette occasion nous permette de souligner quelque chose. Yuba l'avait dit, le phénomène d'activistes, il faudrait que l'État canalise un peu. Parce que, c'est pas pour justifier, mais que c'est trop facile que des gens s'attaquent à des personnes, des personnalités, dans leur dignité. Certains vont jusqu'à dire des douches inimaginables.
Merci beaucoup et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue, ce forum de la presse de ce jour. Nous avions comme invité 4 journalistes, Amadou Ombo-Timbe, Mamadou Djadje Sako de Saxe, Bruno Djito Sekbedji et Yuba Konate. Je suis Mohamedou Touré à la présentation, réalisation Fatoumata Togola, à la mise en onde de Salim Djouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Merci et à demain pour un nouveau numéro du débat de Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmoundi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.